Bonjour Guylaine. Merci d'être là. Je me suis amusée en lien avec le sujet à faire des petites recherches sur le web aujourd'hui. Et c'est assez facile de tomber sur des titres d'articles intitulés « Est-ce que les fruits font engraisser? Est-ce que les féculents font engraisser? Les aliments pour faire fondre la graisse? Les aliments à éviter pour perdre du poids, etc. Et pourtant, vous qui prônez depuis plusieurs années une diète, ben, en fait, pas du tout une diète, mais une approche intuitive pour se sortir justement de ces régimes-là, en fait, vous prônez les anti-régimes. Est-ce que les aliments, on les pense les premiers en ligne là, pour prendre du poids, sont-ils responsables de la prise de poids?
Non, non, pas du tout. Puis c'est pas assez dit, en fait, malheureusement. On s'acharne à regarder le contenu de l'assiette pour trouver le responsable de la prise de poids. Parce que c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe, l'obésité est en augmentation. Fait qu'on rêve en couleur. Puis quelqu'un qui fait un régime perd du poids. Donc, on se dit, ben si se priver fait perdre du poids, ben il y a quelque chose qui marche là-dedans. Sauf que on vit pas pour une année, on vit pas deux ans, on vit pas trois ans. Les études démontrent qu'après cinq ans, 95 % des gens ont repris le poids. Fait qu'à court terme, quand on regarde l'assiette, on se dit, il y a quelque chose qui peut faire perdre du poids si on coupe. Mais à long terme, 60 % des gens vont prendre encore plus de poids que le poids d'origine. Donc, de regarder le comportement alimentaire, elle est là, la solution. Puis c'est ce que je dis depuis, avant l'écriture de mon livre, depuis le début de ma carrière, finalement. Mais malheureusement, la place d'un tel message dépasse pas l'espace qu'il y a, justement, quand vous dites que vous avez tapé, puis tout de suite, on sort comme... Tu sais, je veux dire, il y a quelques années, c'était le gras qui faisait grossir. Après ça, c'était... Le sucre, là, maintenant, on est rendu avec le gluten.
En passant par les œufs, le beurre, les produits laitiers.
Tu vois, mais c'est parce que c'est ça, quand on s'arrête, parce que quand il y a comme une folie qui prend, là, comme là, le sucre est rendu, là, c'est une dépendance. Là, alors qu'il n'y a pas d'études qui démontrent ça. Il n'y a pas d'études qui démontrent que le sucre comme particule va déclencher une dépendance dans le cerveau. C'est sûr que les centres de plaisir sont activés. Manger, c'est un plaisir. Donc, obligatoirement, on va déclencher. Mais c'est pas... C'est parce qu'on cherche une solution. Puis, tu sais, j'en veux pas aux gens qui font ces recherches-là dans l'idée de trouver qui est le coupable, qui fait grossir les gens. On est face à une situation problématique, mais de tourner le miroir puis de regarder le mangeur implique une démarche qui est pas nécessairement aussi facile que juste... Même si c'est pas facile de couper des aliments dans son assiette, mais c'est simple. De regarder sa relation avec la nourriture, ce qui nous fait manger, les émotions qui peuvent nous faire manger, les émotions qui sont là, qui nous dérangent, puis de manger les apaise, ça implique un autre niveau qui est plus complexe. Donc,
Sur le site de Mulan, on peut lire quelque chose, et bien sûr, je vais le simplifier. Je mesure tant, j'aimerais peser tant. Et vous dites, en fait, je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit ce petit passage, mais on sait, on peut se teindre pour changer notre apparence. On peut, il y a plein de choses qu'on peut faire pour modifier notre apparence, mais on ne peut pas s'attendre à ce que notre teinture soit éternelle. Et c'est un petit peu comme le poids. Il ne restera pas fixe comme on aimerait, comme on souhaiterait le fixer. Et selon vous, on a une espèce de poids qui n'est pas un poids santé, mais un poids naturel. Qu'est-ce que c'est, ça?
Mais le poids naturel, c'est comme on a une taille qui est prévue d'avance, dans le sens que on a la taille, on a la couleur des yeux qui est prévue d'avance et on a un poids qui est prévu d'avance aussi dans notre morphologie, dans notre génétique. C'est sûr que la génétique toute seule n'est pas suffisante dans le sens, comme je disais tantôt, on a une taille, mais un enfant qui va manquer de nutriments en bas âge pendant la croissance ne va pas atteindre sa taille optimale. Donc, cette personne-là pourrait avoir une génétique pour mesurer, je dirais, 6 pieds, disons, puis il va finir par en mesurer 5 pieds 5 parce qu'il a manqué de nutriments. Pareil pour le poids, dans le sens qu'il y a une génétique qui est là, mais il y a une influence de l'environnement qui va moduler. Donc, c'est pour ça qu'on parle de poids naturel et non pas de poids génétique. Et ce poids naturel-là, dans le fond, le corps l'obtient par l'écoute des signaux de faim et des signaux de satiété.
Guylaine, vous êtes l'auteur de 3 livres, mm-hmm. notamment avec la journaliste Marie-Claude Lortie, Manger et manger un jeu d'enfant. Mm-hmm. Également, plus récemment, Manger ses émotions, pourquoi on succombe, comment on s'en sort. On va y revenir à ce 3e livre-là. Mais d'abord, vous qui avez fait la promotion du plaisir mm-hmm. de manger dans mm-hmm. vos 2 premiers livres, mm-hmm. Si la nourriture, si manger, c'est pas ça le problème, il est où le problème avec la prise de poids?
Mais en fait, comme je disais tantôt, c'est dans le comportement mmh. alimentaire, dans le sens où est-ce que...
Avec la relation qu'on a avec les aliments.
Exactement, c'est mmh. ça, la relation qu'on entretient avec les aliments. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent influencer, par exemple l'éducation. Tu sais, si on s'est fait dire toute notre vie, finis ton assiette, tu peux pas gaspiller, pense aux enfants de tel pays qui, eux, meurent de faim. L'habitude ouais. se prend, puis l'être humain est un être d'habitude. Donc, on se pose plus de questions, on mange toute notre assiette, puis ça finit par devenir quasiment émotif. Là, moi, quand on travaille en clinique avec des gens, puis que là, je leur dis, bon, mais essaie d'en laisser dans ton assiette. C'est là qu'on peut voir toute l'emprise émotionnelle, où est-ce que c'est tellement difficile au début juste de voir des aliments dans l'assiette, puis ne plus y toucher. Puis là, ben après ça, il y a comme toutes les choses à déconstruire de « Ah oui, mais là, ça fait du gaspillage. » Je veux dire, ouais. OK, on fait du gaspillage. Un, c'est pas obligatoire. On peut le mettre au frigo puis ça devienne une collation plus tard. Donc, c'est pas une obligation que ça soit du gaspillage. Ouais. Mais sérieusement, quand on regarde la quantité d'affaires qu'on gaspille dans notre vie, il y a d'autres choses qui est là que juste l'idée de gaspiller. Et comme je dis, il y a toute cette idée d'éducation. Il y a toute cette idée, puis c'est pour ça que je suis arrivée à la fin avec le 3e livre, Manger ses émotions. Il y a un enjeu aussi du rapport personnel qu'on entretient avec notre corps, puis on cherche à s'apaiser. Donc ça, c'est pas banal non plus. Puis quand on regarde au niveau des troubles alimentaires liés à manger ses émotions, on voit que c'est pas seulement les femmes qui sont atteintes par ça.
De plus
ça,
en
là.
Plus les hommes. Hein?
Exactement. Oui, oui, il y a oui. deux hommes pour trois femmes. Alors que quand on parle de l'anorexie et de la boulimie, qui est plus le côté connu des troubles alimentaires, on parle d'un homme pour 10 femmes et un seul homme. Mm-hmm. Fait que là, on commence à avoir un ratio quasiment de 50-50. Ça serait temps qu'on regarde le rapport alimentaire puis pas juste ce qu'il y a dans l'assiette.
J'imagine que c'est extrêmement variant, mais ça prend combien de temps pour se réapproprier nos signaux de satiété, pour rééduquer, là, comme mmh. vous parliez?
Ouais. En fait, moi, je dis toujours aux gens, quand ils appellent à la clinique puis qu'ils me posent cette question-là, parce que c'est sûr que c'est une question très difficile à répondre, mais je dis aux gens de prévoir une année. Dans le sens où est-ce que... ouais, c'est ça. Mais ça dépend du bagage. C'est sûr que quelqu'un qui arrive chez nous à 18 ans... qui a comme une historique de troubles alimentaires ou de problèmes avec la nourriture qui date d'il y a 2 ans, bien, ça ne va pas prendre une année. Tu sais, quelques mois va être suffisant parce qu'il n'y a pas tout un historique en arrière. Sauf que chez nous, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent avec un bagage de régime assez impressionnant. Ils ont fait des régimes pendant 20-30 ans. Donc, de déconditionner toutes les fausses croyances entretenues par rapport aux aliments, que tel aliment fait grossir, qu'on ne peut pas manger après 7 heures, qu'il faut déjeuner comme un roi, dîner, je sais plus, puis finir en mangeant comme un... Oui, oui, c'est ça, exactement. Il y a toutes sortes de règles qui se sont installées avec les années. Où est-ce que plus il y a de régimes, mais tu sais, au lieu d'avoir, mettons, je ne sais pas, moi, ils en font un, il y a les règles de ce régime-là, ils en font un autre, il y a juste les règles de ce deuxième régime-là. Mais non, il y a les règles du premier qui continuent un peu dans le deuxième, puis ça finit que c'est ça qui est le plus long à aller toutes les sortir et les déconstruire pour aider à connecter avec les signaux de faim et satiété, parce que quand on est pris dans notre tête, c'est qu'on a faim, mais là, ah, ça fait combien de temps que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Comment ça se fait que j'ai déjà faim? Je devrais pas avoir faim? Finalement, bien... on n'est plus du tout connecté sur notre signal.
Et tout ça, Guylaine, ce sont de fausses idées. Prendre un gros déjeuner ou tel aliment, c'est quoi la vérité? C'est simplement manger avec plaisir?
Mm-hmm. En fait, d'écouter ces signaux, puis de ne pas les écouter d'une façon rationnelle. Encore là, ce n'est pas un autre régime. Puis de... Mm-hmm. Tu sais, les gens, quand ils sont en suivi, ils ont comme, à un moment donné, ils font comme « Ah, mais ça devient tellement facile! » Il y a quelque chose de tellement simple. Tu sais, c'est comme aller faire pipi, tu sais. Je veux dire, on se casse pas la tête quand on a envie de faire pipi, de dire « Ah, comment ça se fait que j'ai déjà envie? » On y va, puis on...
C'est biologique, là.
Exactement, ouais, ouais. Mais c'est cette même simplicité-là qui est à amener. Sauf que, comme je dis, tout dépendant de l'histoire qu'on a, mais chaque fois qu'on mange devient tellement compliqué que de ramener de la simplicité, ça peut quasiment sembler utopique. Alors que c'est, oui. on vient au monde avec ce signal-là. Je n'aide pas les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. C'est juste des aider à reconnecter sur qu'est-ce qui est là.
À retrouver ça. Oui, et en même temps, vous êtes confronté à une industrie gigantesque. Là, on parle de plusieurs milliards de dollars, là, le marché du régime dans le monde. Ouais. Quand ces femmes-là, elles vous appellent, ou les hommes aussi, et vous leur dites, ben ça va prendre grosso modo un an. Ouais. Ça doit arriver que certaines raccrochent en disant « Hey, je vais aller voir ailleurs là, pour que ça prenne un mois, deux mois. »
Oui, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est que des fois, les gens me rappellent 2 ans plus tard puis ils me disent « Bon, là, j'ai compris. » Là, c'est comme là, je réalise que si j'étais juste venue, ça serait déjà réglé. Puis moi, je tiens à être honnête là, dans le sens où est-ce que effectivement il y a toujours cette tentation-là. Puis je peux dire que même les gens qui se disent « OK, ça va prendre un an, mais ça prendra un an. » Puis j'embarque. Je dirais que les premiers 3 mois, cette ambivalence de dire « Ah, mais il y aurait quelque chose de tellement simple qui serait juste de me priver », on a à composer avec ça dans notre quotidien. Tu sais, la tentation est tellement là, la perte de poids semble tellement comme la solution pour être mieux dans son corps, tu sais, puis de faire voir que finalement, ben la seule différence d'être mal dans son corps parce qu'on n'a pas l'image corporelle qu'on souhaite, c'est au-delà de kilos en trop, tu sais. Donc, faire prendre conscience que d'être bien, c'est un état mental et non pas un état physique. Ça fait partie du processus, finalement. Donc, c'est pas juste la relation avec la nourriture.
Oui, et j'imagine que quand on réapprend à reconnaître ces signaux-là de satiété, on s'éloigne tranquillement de l'esprit de contrôle. Je dois contrôler mon poids. Ça doit faire du bien, ça, à un moment donné, de nous enlever ça des épaules, là, de dire je dois contrôler constamment.
Complètement, puis de réaliser qu'on n'a pas de contrôle, finalement. C'est au-delà de « j'ai plus besoin de contrôler », on n'a pas de contrôle. Ouais. Parce que si on avait un contrôle sur notre poids...
On serait tous minces comme on le souhaite.
Dire,
là,
c'est ça, exactement. Ouais. C'est pas le manque de volonté. Puis ça, c'est terrible de faire porter ce fardeau-là aux personnes qui font le régime, dans le sens que ceux qui font les régimes disent « Bien, regardez, vous perdez du poids quand vous faites votre régime. Donc, si vous reprenez du poids, c'est parce que vous manquez de volonté.
Oui. »
Donc, la réussite est sur le régime et l'échec est sur la personne. C'est pas vrai. Parce que pour s'astreindre à faire ça, ça en prend de la volonté. Donc, si c'était une question de volonté, comme vous dites, on serait tous au poids qu'on souhaite avoir. Donc, de réaliser que c'est ça, non seulement c'est pas la bonne voie à prendre de dire « je dois contrôler mon poids », c'est « j'ai pas de contrôle sur mon poids ». Donc, de laisser faire confiance à son corps, puis se dire là, que le système qui gère le poids, c'est le même qui gère notre cœur, qui fait nos hormones, qui nous fait respirer. Personne ne se lève le matin en disant « Hey, j'espère qu'aujourd'hui, mon cœur va tenir toute la journée. » On y fait confiance là, au point où on y
on
pense
paniquerait.
Même pas. T'sais. C'est ça. Je vais pas vous mettre des idées dans la tête. Mais dans le fond, alors qu'on pense qu'il faut qu'on contrôle notre poids, ce système-là, il est exceptionnellement bon. Là. Juste d'apprendre à lui faire confiance. Mais tu sais, quand on a lutté contre son poids toute sa vie, faire confiance à son corps... C'est toute une étape là, de dire « Hey, mon corps, c'est mon allié. » Puis lui aussi veut être à son poids naturel et de se reconnecter comme ça doucement à lui pour arriver à l'obtenir.
Guylaine, votre dernier livre s'appelle « Manger ses émotions, pourquoi on succombe, comment on s'en sort. » C'est vrai que des fois, ça fait du bien manger ses émotions. Pourquoi donc?
En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que la raison, c'est que on aurait comme 3 centres, comme 3 cerveaux, je dirais. Le cerveau qu'on connaît, celui en haut, le cœur, donc le côté... Parce qu'on a réalisé qu'il y avait plus de neurones dans le cœur et dans les intestins que ce qui est nécessaire pour le travail que ces organes-là font. Donc, on a commencé à réaliser qu'il y avait des signaux qui partaient de là, qui montaient au cerveau au lieu de que ce soit juste dans le sens inverse. Et ce qui arrive, c'est que évidemment au niveau structurel, ces neurones-là sont très, très collés sur... La partie physiologique. Donc, quand on ressent des choses, tu sais, papillons dans l'estomac, on est nerveux, on a les boyaux qui se tordent. Donc,
c'est
dans le tube digestif. Donc, ça peut donner l'impression de dire « Ah ben si je mets de la nourriture là, ça va apaiser. » Et donc, c'est pas sorti de nulle part là, quand on pense que manger a un effet à calmer cet espace-là. Mais plus on s'entraîne à repérer les sensations... Plus on les distingue et qu'on réalise, finalement, comme je dis toujours aux gens, quand vous avez mal au pied, vous ne dites pas « je vais aller prendre une barre de chocolat ». Vous êtes conscient que le pied n'est pas relié avec votre sensation de mal-être par rapport à ce que vous sentez. Alors que quand on a l'estomac comme qui flotte un peu parce qu'on est nerveux, on peut se dire, ah, ben, j'ai peut-être faim et là, aller manger. Oui, alors oui, que dans le fond, c'est que c'est juste une confusion au niveau des sensations.
Ah, c'est fascinant, ça. Mm-hmm. Et on fait comment... Bon, j'imagine déjà de le savoir, c'est bien, mais on fait comment pour contrer ça? On va prendre une marche?
Ça, c'est la pire des choses à faire. Parce que l'idée, c'est d'apprendre. Tu sais, moi, je dis, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Apprendre à reconnaître les signaux de notre corps, ça se fait comme... Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est quoi? C'est d'aller faire l'immersion complète.
Ouais.
On apprend la langue dans sa plus profonde façon de le faire, plus que dans un livre. Donc, l'idée, c'est que quand on sent ces sensations-là puis qu'on a un doute, c'est de rester dans les sensations pour apprendre de plus en plus à les reconnaître. Puis on dit, dans le fond, l'idée, c'est comme apprendre à surfer. Au lieu de se faire submerger par la vague émotionnelle, c'est d'apprendre à surfer dessus. Comment on apprend à surfer? Bien, c'est en apprenant à tolérer. Donc, la sensation, il y a des fois qu'on peut la tolérer. Donc, on reste dessus. Puis on fait « Ah, OK, c'était ça que je sentais ». Puis doucement, on n'a plus envie de manger parce que, comme je dis, une fois qu'on repère la sensation, on a plus le réflexe de se dire c'est la nourriture qui va combler ça. Sauf que quand on apprend à surfer, bien, on peut aller dans des places où il y a des petites vagues, puis après ça, des moyennes vagues, puis des grosses vagues. La vie, c'est la vie. Hein? Des fois, il y a des grosses vagues qui nous frappent, puis bon, on ne peut pas rien y faire. Donc, c'est d'accepter que c'est un processus, puis que des fois, ça va être trop gros et on va manger. Mais en comprenant que c'est des étapes à franchir, mais je dirais que si vous avez un doute que c'est peut-être ça que vous vivez, c'est d'aller, d'attendre, de mettre du temps entre le moment où est-ce qu'on sent le désir de manger et le moment de manger. Plus on étire le temps, plus on apprend à tolérer l'inconfort que les émotions nous procurent.
Guylaine Gavremont, vous êtes diététiste, nutritionniste, auteure, conférencière, fondatrice et directrice générale de la clinique Mulan, mulan.ca, pour en savoir davantage. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci.